Voilà, donc notre cinquième séance. Hein, on est déjà dans la cinquième séance de cours, ce qui veut dire qu'on n'a plus qu'une séance officiellement, donc la semaine prochaine, le 25 février. Donc, comme je disais, je récapitule en audio pour que tout le monde ait l'info. Donc, le retour au présentiel, envisageable, envisagé, à vérifier selon un sondage auquel vous allez répondre, enfin en m'indiquant vos possibilités ou vos préférences, présentiel, visio ou indifférence, ou en tout cas les deux sont possibles, ou une préférence mais pas d'impossibilité. Voilà, vous me faites un petit retour en ce sens. Et on verra ce qu'on peut faire pour la semaine prochaine, le cas échéant, puisque ce sera notre dernière séance. Alors avant cela, on aura une séance la veille, hein, le 24 février, que je vous rappelle, je vous l'ai déjà indiqué plusieurs fois, mais bon, plus on répète, plus ça devient quelque chose d'intéressant et d'important, je le sais par expérience. Donc une séance de séminaire de master que prend en charge donc Francis Rousseau à l'université de Galatasaray. Donc son séminaire porte sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est lui donc qui a rendu possible ma chaire à Istanbul et qui est donc chercheur en sciences et en intelligence artificielle. Et donc la semaine prochaine, dans le cadre de la première séance de son séminaire, il donne la parole sous la forme d'une conférence à Anastase Karantonis, qui est donc maître de conférence en intelligence artificielle à l'université de Jussieu, à Paris, et qui donc prendra la parole dans le cadre d'une séance qui aura lieu entre 11h et 13h30. Donc les horaires sont les siens, ils sont de toute façon contraints, donc j'espère que ce sera jouable pour vous. L'objectif de cette séance de séminaire étant donc de proposer une introduction, c'est la première séance de son séminaire, donc c'est vraiment une introduction à l'apprentissage profond, pour les non-initiés, donc en l'occurrence pour vous et pour moi, mais aussi pour ses propres étudiants à Galatasaray. Et donc je vais vous envoyer, il m'a transmis hier le lien donc vers la salle virtuelle, donc ce sera un lien Zoom cette fois-ci, donc je vais vous l'envoyer dès aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, ainsi qu'un petit, une petite bio, une présentation sous forme de lien aussi de Anastase Karantonis. Donc comme je l'ai déjà dit et je le redis, je pense que cette séance qui est évidemment un plus, hein, qui fournit une septième séance de séminaire finalement pour nous, est vraiment très importante. Elle fait partie en fait de nos séances de séminaire, elle est complètement intégrée dans la mesure où elle permet d'avoir des éléments de compréhension de l'apprentissage profond que je ne pourrais moi-même pas vous donner directement, mais dont je ferai usage justement sur la base de cette séance le lendemain, hein, c'est-à-dire le jeudi. Je reprendrai un certain nombre d'éléments de cette séance, je ne vais pas refaire la séance, mais je reprendrai des éléments pour les mettre en relation avec justement l'approche phénoménologique qui me semble vraiment utile et intéressante à mettre en relation et à corréler à cette vague de l'intelligence artificielle qu'est l'apprentissage profond, et à savoir la microphénoménologie. Hein, donc ce sera le moment justement de cette mise en relation, le jeudi prochain. Voilà. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va avoir deux temps, comme je vous l'indiquais dans le mail d'hier également. Donc on va avoir... bonjour Sinan. On va avoir donc un premier temps où je vais céder la parole à Bastien Lebel, qui va nous proposer donc une petite présentation de l'ouvrage de Francisco Varela, L'invitation aux sciences cognitives, donc il a accepté, et je le remercie, de présenter, et qui donc correspondra du coup pour lui à la validation de ce séminaire, comme je l'avais suggéré pour celles et ceux parmi vous qui avaient envie de prendre la parole à l'oral plutôt que de réaliser un mini-mémoire ou de faire une explication de texte. Donc suite à sa présentation, on aura une petite discussion, un petit échange, aller-retour de questions. Ensuite, on fera une petite pause Et puis ensuite, dans un deuxième temps, donc je prendrai la parole de mon côté pour vous donner donc des éléments de présentation de ce deuxième temps de la phénoménologie dans son histoire, que je nomme phénoménologie pratique. Et je le ferai à travers donc une présentation de l'ouvrage donc que j'ai coécrit avec Francisco Varela et Pierre Vermersch, On Becoming Aware, Pragmatics of Experiencing, qui a été publié en 2003 et qui a été publié ensuite en 2011 sous la forme d'une traduction qui est en fait le texte français du texte initial, qui s'intitule À l'épreuve de l'expérience pour une pratique phénoménologique, donc qui est paru beaucoup plus tard en 2011. Voilà, et on verra si en fin de séance je peux déjà vous donner quelques éléments préliminaires concernant la microphénoménologie à titre d'ouverture et de mise en appétit, si je puis dire, par rapport à ce que donc à ce qu'on aura comme temps d'échange jeudi prochain et en lien avec la séance du mercredi prise en charge par Francis Rousseau. Voilà, avant que je donne la parole, avant de donner la parole à Bastien, je vous invite à vous manifester à nouveau là auprès de moi concernant les choix de sujets. Hein. Vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit encore cette semaine à ce propos. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas pour l'instant formulé de souhaits ou de choix de sujets. Donc c'est le moment. Hein. N'hésitez pas. Notamment par exemple. Élise, qui n'est pas là, qui travaille en fait au CHU parallèlement, donc qui ne peut pas suivre les cours, mais qui les récupère en audio, m'a proposé donc de travailler sur la microphénoménologie, justement, en lien avec Pierre Vermersch. Mais elle ne pourra pas sans doute le présenter à l'oral parce qu'elle travaille, donc elle fera ça sous forme d'écrit. Et sinon, Yosra m'a proposé, donc à sa demande, je lui ai envoyé deux articles qui traitent des enjeux éthiques et politiques. Du deep learning et donc il a aussi proposé de faire une présentation alors que j'avais prévu plutôt comme oral au départ et que j'ai basculé plutôt à l'écrit, enfin on en reparlera Yosra si vous voulez par rapport à notre dernière séance pour la semaine prochaine. Bon, après il faut voir si c'est un peu tôt pour vous éventuellement de prendre la parole, ça pourrait être intéressant d'avoir une petite ouverture en fin de séance la semaine prochaine sur ces enjeux. Et du coup que vous validiez sous cette forme là, mais il faut voir si vous avez le temps dans l'intervalle. Donc il y a deux articles, l'idée c'était pas forcément de travailler les deux, plutôt d'en présenter un en majeur, celui qui vous semble le plus intéressant, mais de lire les deux. Voilà, on peut faire ça si vous voulez, hein, si ça vous convient, en fin de séance, la semaine prochaine en ce cas, d'accord, bah, je le note. Très bien, et puis donc les autres étudiants, vous ferez plutôt une présentation écrite. Très bien, on fait comme ça. Parfait. Alors du coup, je vais donner la parole à Bastien maintenant. Donc vous pouvez mettre votre micro, Bastien. Voilà, vous êtes là ?
Oui.
Très bien.
Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui, je vous entends bien. Essayez de me parler un peu fort parce que je vais enregistrer votre prise de parole. Donc je vais l'enregistrer avec vous.
J'ai rapproché le micro, c'est mieux.
Oui, c'est bien comme ça, c'est très bien. Est-ce que tout le monde entend bien, Bastien ? Est-ce que ça va ?
Est-ce oui, que ça va ? Vous m'entendez respirer aussi.
C'est bon, très bien. Oui, approchez-vous, mais pas trop, parce qu'autrement, on va entendre votre respiration.
C'est d'accord.
Mais là, je crois que pour l'enregistrement, c'est OK, hein, de toute façon. Donc, du coup, je vais couper mon micro pour maximiser, hein, pour ne pas faire de bruitage à côté.
D'accord.
Et puis donc voilà, je vous donne la parole, pas de souci, et on aura un échange après.
Très bien.
Voilà, à tout de suite alors, enfin, à tout à l'heure.
Merci. You are now muted. Alors, bon, je vais commencer. Donc, avant d'énoncer le plan de l'œuvre, donc d'en exposer les différentes parties, il me semble nécessaire d'aborder en premier lieu le projet. L'objectif que se donne selon moi Francisco Varela dans le livre. Donc, il ne va en effet pas être question d'une simple introduction dans laquelle il s'occuperait de passer en revue les différentes étapes, aussi bien historiques que conceptuelles, des sciences cognitives, et ce, donc de leur naissance jusqu'à l'année 1988, donc la date de parution du livre. Une telle approche aurait au final un intérêt assez réduit, outre celui de proposer une sorte de frise chronologique et conceptuelle des sciences cognitives. L'idée va bien sûr être, comme énoncé par Varela lui-même, de donner une vue en coupe de l'état actuel des sciences cognitives, des sciences et technologies de la cognition, mais aussi de proposer la présentation, l'exposition d'un mouvement d'ouverture progressif de ces dernières. Ce qu'il faut comprendre par ouverture, c'est le fait que dès l'introduction du livre, l'auteur dénonce ou souhaite précisément remettre en question le caractère trop orthodoxe, trop reclus des sciences cognitives, orthodoxie empêchant donc, selon lui, le développement de la structure conceptuelle de ces dernières. Donc, ce livre est donc une présentation inclusive de Francisco Varela. Tout le projet de cette invitation va donc être pour l'auteur de présenter, selon moi, la coïncidence effective entre le mouvement de progression et le mouvement d'ouverture des sciences cognitives. Ouverture, notamment, on le verra à la fin, à la phénoménologie de Husserl et de Merleau-Ponty. Or, cette ouverture des sciences cognitives est double. Elle est non seulement celle d'un mouvement vers d'autres domaines qu'elle-même, mais elle est aussi, selon Varela, une forme d'ouverture au vivant. Ou comme il l'écrit, donc ouvrez les guillemets, nous voulons montrer ici que l'examen du seul aspect technologique ou du seul aspect fondamental des STC, donc des sciences et technologies de la cognition, ne laisse pas apparaître la vitalité réelle du phénomène, ni ses perspectives de développement. Fermez les guillemets. Pour le dire autrement, et comme on aura l'occasion de l'aborder par la suite, le propos de Francisco Varela tient notamment à affirmer qu'afin de comprendre le phénomène de la cognition, on ne peut faire l'économie du monde, du contexte ou encore de l'interaction continue de l'individu avec son environnement, donc du caractère vivant de cette interaction. Or, c'est précisément en quelque sorte l'erreur qu'ont pu commettre les sciences cognitives, à savoir de réduire le phénomène de la cognition, le fait de réduire la conscience à un peu programme ou à la simple interaction entre les neurones. C'est donc dans la perspective de la remise en question de ces préjugés et dans celle de la mise en exergue de l'ouverture des sciences cognitives que l'auteur va finalement introduire et développer le concept clé de l'œuvre qu'on verra à la fin de la présentation, à savoir l'énaction. Donc, l'œuvre va donc être divisée en deux grandes parties. Les deux premiers chapitres, constituant la première partie, vont être consacrés à l'examen des fondations du paradigme des sciences cognitives. Pour ce qui est du premier chapitre, il va être question d'y présenter la période couvrant la naissance des STC, je dis ça pour abréger, à savoir des années 1940 à 1956. Ce que deviendront plus tard les sciences cognitives ont tout d'abord vu le jour suite à une forme d'effervescence, suite à la convergence de disciplines inclinant ou aspirant toutes à façonner une science dite épistémologique, à savoir donc à une théorie de la connaissance. L'auteur décrit donc les premières années des sciences cognitives comme un intense échange pluridisciplinaire, échange ayant mené à la naissance de ce qui fut nommé par la suite le mouvement cybernétique. Le but de ce mouvement était de repenser à neuf, de tenter de décrire les processus de l'esprit en se basant non plus sur la philosophie ou la psychologie, mais en s'appuyant sur des mécanismes explicites et sur des formalismes mathématiques. Donc, de là émergeait l'idée que c'était sur la logique qu'il fallait donc se baser afin de décrire et de comprendre le fonctionnement du cerveau. Ce dernier était donc pensé comme une forme de machine déductive constituée de neurones dont l'état actif ou non désignait une certaine valeur logique selon le cas. C'est notamment cette vision du cerveau qui servit de catalyseur pour l'invention de l'ordinateur. Donc, cette première étape de l'histoire des sciences cognitives allait jeter les bases de ce qui deviendrait plus tard, en 1956, l'hypothèse cognitiviste. Cette seconde phase correspond donc au second chapitre. L'idée majeure du mouvement cognitiviste était la suivante. La proximité entre l'intelligence, y compris l'intelligence humaine, et l'ordinateur est telle qu'il est possible de réduire ou de définir la cognition par la computation. Autrement dit, de l'assimiler au traitement par ordinateur. Or, avant d'expliquer un peu plus précisément ce qu'il faut comprendre par computation, il est nécessaire de dire que, pardon, il est nécessaire de dire que l'un des objectifs du mouvement cognitiviste était de démarquer cette hypothèse de ses antécédents pluridisciplinaires, à savoir ceux qui étaient à l'origine même des STC, c'est-à-dire de l'influence des sciences sociales et biologiques et de leur complexité diverse. Ici, l'auteur nous décrit donc bien, comme annoncé en introduction, une forme de fermeture produite par l'hypothèse cognitiviste. Ainsi, cette dernière affirme que la cognition est assimilable à la computation, laquelle fonctionne sur la base de la manipulation sur l'opération effectuée sur des symboles. Donc, deux idées sont principalement à retenir de l'hypothèse cognitiviste. Deux idées qui vont justement être remises en question et critiquées dans la suite de l'œuvre. Premièrement, elle instaure une idée qui persiste encore aujourd'hui, à savoir que la cognition fonctionnerait sur la base du traitement de l'information. Autrement dit, le cerveau traite l'information venue du monde extérieur. Deuxièmement, l'hypothèse cognitiviste voit émerger la notion de représentation. Donc, comme l'écrit l'auteur, ouvrez les guillemets, l'argument cognitiviste est que le comportement intelligent présuppose la faculté de représenter le monde d'une certaine façon. Fermez les guillemets. Ainsi, si le traitement de l'information par l'agent aboutit à une solution au problème, c'est donc que ce dernier se sera fait, une représentation adéquate de son environnement, de quelque aspect du monde réel. Avant de passer à la deuxième grande partie de l'œuvre, et donc à la remise en question des idées constituant la base du paradigme de ce qu'étaient les sciences cognitives, il est nécessaire d'aborder le fait que cette hypothèse est notamment à l'origine de l'intelligence artificielle. Comme l'écrit Varela, cette dernière est la projection littérale de l'hypothèse cognitiviste, et donc du principe de traitement d'informations provenant d'un monde extérieur par la manipulation de symboles. Donc, dans la seconde partie de l'œuvre, Francisco Varela va présenter les diverses perspectives ayant émergé des idées et concepts ayant forgé l'hypothèse cognitiviste. C'est le principe d'émergence constituant une alternative à l'orientation symbolique et donc au traitement de l'information par symbole qui va être l'objet du troisième chapitre de l'œuvre. La fin des années 80 ont vu apparaître une remise en question de la logique comme approche principale en sciences cognitives. En effet, les premières critiques naquirent d'une part du fait qu'on ne retrouve tout simplement pas de règles ni de processus logiques au sein d'un cerveau réel, et d'autre part, que l'information ne semble pas y être stockée. Autrement dit, les critiques adressées au cognitivisme proviennent directement d'une analyse, d'une attention plus poussée sur le fonctionnement effectif du cerveau. Or, ce qui est observé, c'est le fait que le cerveau ne fonctionne donc non pas à partir de processus logiques abstraits, mais sur la base d'interconnexions massives entre constituants simples et non intelligents qui, comme des neurones, expriment des propriétés globales intéressantes seulement lorsqu'elles sont reliées. Ainsi, le fait que l'action se joue au niveau de la connexion entre les neurones donnera naissance au nom de ce mouvement, à savoir le connexionnisme. Alors, pour être honnête, malgré plusieurs lectures, je n'ai toujours pas véritablement compris dans le détail les points clés du connexionnisme. J'en suis désolé. Donc, je vais me permettre d'avancer un peu et aborder le point qui me semble important pour poursuivre la présentation. Donc, selon moi, l'idée à retenir est la suivante. Bien que le connexionnisme, tout comme le cognitivisme, avant lui, soit toujours ancré dans le même paradigme, à savoir dans l'idée que le critère de la cognition reste l'adéquation de la représentation à un monde extérieur, et donc à un monde extérieur arrêté, prédéterminé, ce qui pose de nombreux problèmes, comme vous le verrons dans la suite de notre présentation. Malgré cela, ce qui est à retenir, toujours dans l'idée d'une forme de mouvement d'ouverture du cheminement des sciences cognitives, c'est le fait que les modèles connexionnistes sont très proches des systèmes biologiques, et donc que la dimension vivante du phénomène de cognition se donne davantage que dans les premiers moments cognitivistes. Le mouvement historique des sciences cognitives, tel qu'est présenté par Varela, correspond donc d'une certaine manière à une forme de retour aux sources ou de réconciliation progressive de cette science avec ce qui a produit son émergence, à savoir un jeu d'interaction pluridisciplinaire. Donc, je vais à présent passer à la présentation du dernier moment de l'œuvre, à savoir l'exposition du concept d'énaction. Celui-ci étant présenté davantage comme un nouveau paradigme et donc comme une alternative, pardon, à la représentation. Pour appréhender justement le concept d'énaction, il est nécessaire d'exposer en premier lieu ce en quoi la notion de représentation fait problème dans le développement des sciences cognitives, et ce, en vue d'une juste compréhension et explication du phénomène de cognition. Donc, comme évoqué précédemment, pardon, que ce soit dans le cadre des modèles cognitivistes ou connexionnistes, le critère de la cognition était et reste l'adéquation de la représentation avec un monde extérieur. Dans cette idée, le cerveau conserve d'une part son rôle, sa fonction de traitement d'information, ce qui le maintient au sein de la métaphore de l'ordinateur, et d'autre part, ce critère de l'adéquate représentation implique aussi que la connaissance serait conçu comme un miroir de la nature. Afin d'exposer clairement les problèmes liés à la représentation, Francisco Varela propose de distinguer deux acceptions de cette dernière, à savoir un sens qui désignera comme faible et un second comme fort. Donc, le sens faible possède une dimension purement sémantique, ce qui signifie, comme énoncé par l'auteur, que ce sens, ouvrez les guillemets, réfère à tout ce qui peut être compris comme étant à propos de quelque chose. C'est là la définition de la représentation comme interprétation, puisque rien n'est à propos de quelque chose sans être d'abord interprété comme étant dans tel ou tel état. Fermez les guillemets. Il utilise l'exemple de mots sur une page pour illustrer ce premier sens. En effet, les mots sur une page représentent des phrases, lesquelles représentent, sont à propos d'autre chose encore. Ce sens faible est purement pragmatique. Nous y recourons sans que cela ne pose aucun problème. Néanmoins, la représentation devient problématique, et c'est là le sens fort, lorsque nous opérons une généralisation de ce premier sens. Autrement dit, pardon, lorsque nous présumons des propriétés prédéfinies au monde, les formes, les couleurs, etc., lesquelles seraient donc purement indépendantes du sujet qui perçoit ce même monde. Or, comme affirmé par l'auteur, notre activité cognitive quotidienne révèle que cette image est incomplète, que la cognition ne peut se résumer à ce mouvement de représentation de propriétés. Selon Francisco Varela, le problème de ce préjugé principal qu'est celui de la représentation c'est l'absence de prise en compte du contexte dans lequel est pris l'agent. En d'autres termes, on ne peut comprendre le phénomène de cognition en abstrayant l'agent, quel qu'il soit, au monde, à l'environnement et au contexte dans lequel il est pris. C'est précisément le sens que revêt le concept d'inaction. La cognition est toujours relative à un certain contexte, à une certaine organisation, à une interaction des organismes vivants avec leur environnement. Et l'on ne peut en comprendre le phénomène si l'on abstrait l'agent du monde. Ouvrez les guillemets. La plus importante faculté de toute cognition vivante est précisément, dans une large mesure, de poser les questions pertinentes qui surgissent à chaque moment de notre vie. Elles ne sont pas prédéfinies, mais énactées. On les fait émerger sur un arrière-plan et les critères de pertinence sont dictés par notre sens commun, autrement dit par notre histoire physique et sociale, et ce, d'une manière toujours contextuelle. Fermez les guillemets. Donc, pour clarifier et clôturer notre propos, pouvons mobiliser l'exemple des couleurs pour illustrer la chose. Donc, ces dernières ne sont précisément pas simplement des propriétés d'un monde extérieur qu'il faudrait se représenter, traiter et qui seraient identiques pour chaque organisme vivant. La preuve à cela est, par exemple, que certains oiseaux sont tétrachromates, qu'ils utilisent quatre couleurs primaires au lieu de trois pour les primates. Le but de cet exemple, pardon, n'est pas d'affirmer que l'un ou l'autre serait plus fidèle, aurait une représentation plus juste d'une même propriété, mais bien de démontrer que nous habitons deux mondes perceptuels distincts, deux mondes, deux contextes différemment articulés. Ouvrez les guillemets. L'histoire bien différente du couplage structurel des oiseaux et des primates a fait émerger un monde de pertinence pour chacun d'eux qui est inséparable de leur vécu. Les mécanismes neuronaux sur lesquels repose la perception de la couleur ne correspondent pas à la solution à un problème, comme ce qui peut être affirmé dans le cognitivisme ou le connexionnisme, mais à l'apparition simultanée de la perception de la couleur chez l'homme ou l'oiseau et de ce qu'on peut appeler les attributs chromatiques du monde habité. Fermez les guillemets. J'ai terminé.
D'accord, merci beaucoup, Bastien. Peut-être juste un petit mot pour pas que ce soit trop abrupt au niveau de la conclusion. Est-ce que non, pas de souci, mais c'était très bien, hein, de toute façon. Peut-être juste nous dire, voilà, pourquoi ce livre, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre, voilà, en deux mots peut-être.
Qu'est-ce qui m'a intéressé? Bah, j'avoue que de base, le sujet des sciences cognitives, des neurosciences, etc., m'intéresse beaucoup et j'ai jamais vraiment eu l'occasion, je me suis jamais poussé à commencer le travail. Et donc c'était un petit peu l'occasion, surtout que j'avais déjà beaucoup entendu parler, un petit peu lu à propos de Francisco Varela. Et donc non, vraiment, c'était vraiment l'occasion qui a fait. Désolé un peu pour les passages où c'était moins clair. J'avoue que la lecture était un peu plus complexe que ce que je pensais. Ça a été assez difficile de comprendre.
Oui, non, bien sûr, je comprends. Et peut-être une question enfin que je peux vous poser aussi, c'est finalement est-ce que ça fait lien pour vous, par exemple, avec votre travail de mémoire? Est-ce que vous y voyez des possibilités de relation, sachant que voilà, votre mémoire porte sur le désir, aussi en lien avec ce que vous avez fait l'année dernière sur plutôt sur un terrain heideggerien des épreuves existentielles?
Alors, pour être franc, j'ai pas encore réfléchi pour mon mémoire de cette année, même si je pense que ça pourrait être très intéressant. Mais effectivement, ouais, j'ai pu faire, on va dire, même si je l'ai pas inclus dans ma présentation, j'ai pu faire pas mal de liens du coup avec ce que j'avais déjà pu lire d'Heidegger, de ce que j'avais pu voir. Donc, mais je regarderai par rapport à mon sujet, voir s'il y a moyen de faire des liens.
Enfin, s'il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'est simplement le
Non, bien
thème,
sûr, bien sûr.
voilà, le thème de l'inaction chez Varela, c'est quand même un thème qui justement met en cause une certaine conception du désir, justement, ou en tout cas peut se relier à une conception du désir qu'on trouve déjà chez Spinoza, hein, à travers le conatus. Hein, il y a dans les deux cas l'idée d'un mouvement, hein, d'une mise en mouvement qui s'oppose à un schéma représentationnel. Enfin, Spinoza s'oppose à Descartes aussi un peu sur ce terrain d'une autre façon, avec d'autres termes. Donc bon, voilà, c'est juste comme ça, en vous écoutant, je me disais qu'il y avait peut-être des choses à creuser de ce côté-là également.
Non, vous faites bien, vous faites bien.
Mais voilà, c'est des pistes. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'elle est. Vous avez fait un beau travail, hein, très précis de lecture.
Merci.
Vous avez vraiment voilà, plongé dans le texte et vous en avez ressorti, je pense, des éléments substantiels et en même temps très synthétiques. Donc je pense que ça c'est extrêmement utile pour vos camarades, pour le séminaire dans son ensemble. Et pour vous, en fait, ça, voilà, ça permet voilà, d'avoir hein, vraiment une belle compréhension du projet de Varela et du lien que vous avez fait à plusieurs reprises, effectivement aussi avec le projet qui est celui de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est vrai que la thématique de Varela n'est pas directement l'intelligence artificielle, hein, c'est les sciences cognitives dans son ensemble. Dans leur ensemble, et évidemment ça inclut l'intelligence artificielle, mais vous avez à plusieurs reprises fait le lien. Donc moi je trouve que c'est vous avez fait un beau travail. Alors évidemment j'ai été quelques petites questions ou remarques, on pourra y revenir, mais peut-être dans un premier temps, peut-être donner la parole à vos camarades s'ils ont des questions, des demandes de clarification, soit
J'espère
si.
que je pourrai répondre.
Oui, ou je répondrai aussi. Enfin voilà, c'est un échange, hein, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Donc soit par le chat, soit par en prenant le micro également, c'est bien aussi. Si vous avez des remarques ou des demandes, des questions. Bon, c'est un texte qui se présente à la fois qui est assez synthétique, hein, donc qui se présente. Vous l'avez très bien dit, hein, ça peut être l'illusion de se présenter comme une introduction. En fait, c'est tout un projet, hein, c'est toute une prise de position théorique. Donc c'est assez ambitieux en réalité comme travail, même si ça a le format d'un petit livre qui se veut assez modeste. Donc il y a un côté un petit peu, voilà, on est un peu surpris par finalement
C'est ça.
l'ambition du projet et ouais c'est ça, et la
Je me
radicalité
suis
aussi.
laissé avoir.
Oui, bah en fait moi c'était pas un piège, hein. je vais pas chercher à, je pense que c'est un livre qui est plus accessible que l'inscription corporelle de l'esprit. Parce que bon, là, dans ce livre, l'inscription corporelle de l'esprit, donc qui est antérieure, hein, de 89, c'est un peu un chantier, enfin, où il y a toutes sortes de c'est plus hétérogène, c'est coécrit avec deux autres personnes en plus, donc du coup, ça donne quelque chose de plus hétérogène. Et je trouvais que là, il avait réussi, Varela avait réussi à faire un travail beaucoup plus lisse de mise en perspective de sa propre pensée. Donc, que pour nous, en tout cas, c'était pour ce séminaire, c'était vraiment utile d'avoir cette présentation. Et donc merci d'avoir vraiment fait le travail, c'est très bien. Donc voilà, j'attends un peu les questions éventuelles de celles et ceux qui voudraient avoir d'autres informations. Ça peut être vraiment des questions très factuelles, hein, il n'y a pas de souci.
Si je peux dire quelque chose,
Oui,
parce que
allez-y, Bastien, bien sûr.
alors si l'un de vous est plus au courant du coup que moi sur le connexionnisme, je veux bien qu'il m'explique. Parce que j'ai lu et relu les passages, mais j'ai pas réussi.
Oui, ça j'ai noté, hein. J'ai noté que c'était un point sur lequel il fallait que je revienne de mon côté. Mais effectivement, si l'un ou l'autre de vos camarades a des compléments ou aurait lu des choses qui pourraient nous permettre d'interagir sur ce terrain, c'est très bien. Bon, mais je vais peut-être tout de suite embrayer là-dessus, à moins que Loïc, je vois que Loïc est en train d'écrire quelque chose. Mais effectivement, c'est un point que je vais peut-être développer un tout petit peu pour compléter ce que vous avez déjà dit, parce que vous avez quand même déjà dit des choses, hein, enfin, sur cette notion de connexionnisme. Vous n'étiez pas sans cartouche, on va dire. Mais c'est vrai que bon, on peut dire davantage. Et c'est vrai que c'est sans doute un des points cruciaux comment dire, de l'ouvrage, parce qu'en réalité, ouais, Paul vous fait un petit compliment sympathique, hein, Non, mais c'est vrai, il a tout à fait raison. Vous avez fait un beau travail. Vous avez fait un très beau travail. Moi aussi, je vous félicite.
Merci.
Mais c'est vrai que cette notion de connexionnisme, c'est sans doute c'est la cheville ouvrière, en fait, de l'ouvrage. Hein. Vous avez eu raison de dire que l'inaction, c'est la notion clé. Ça, c'est vrai. Et c'est l'originalité, c'est le point d'originalité de Varela, de façon générale, dans cet ouvrage, mais aussi d'ailleurs dans l'inscription corporelle de l'esprit, hein, puisqu'il y a tout un chapitre sur l'inaction qui est la marque de fabrique, en fait, de Varela. Donc vous avez eu raison de toute façon de terminer là-dessus et puis d'indiquer que c'était vraiment son concept et le moment où il fait la critique la plus forte du paradigme de la représentation et de la mise en évidence de la relation au corps et au contexte comme étant une composante déterminante finalement de la connaissance. Donc c'est vrai que, mais ça d'une certaine manière, à la fois c'est le point central et on n'a pas trop de mal à le comprendre en fait. Enfin, je veux dire, c'est suffisamment fort comme hypothèse pour qu'on puisse la cerner assez facilement en fin de compte. Alors que la notion de, enfin, comment dire, l'approche connexionniste, c'est comment dire, le point de passage. On pourrait dire, c'est le point de passage entre le cognitivisme dit orthodoxe, c'est-à-dire symbolique, initial, et puis l'inaction. Et donc du coup, je vais lire la remarque que fait Loïc avant de continuer, qui nous dit donc ce que j'ai compris, c'est que le connexionnisme pense que les fonctions cérébrales font émerger quelque chose en plus que leur contenu matériel. Les connexions créent une nouvelle fonction qui s'ajoute aux anciennes. Voilà, je ne pense pas aller bien loin, mais c'est ce que j'ai compris moi. Mais écoutez, c'est déjà très bien, Loïc. Effectivement, je pense que l'idée que vous mettez en avant, elle est juste. Hein, et ce que Bastien avait formulé autrement, hein, en disant que c'était les interconnexions entre les éléments qui faisaient émerger du sens, hein, qui dessinaient des propriétés globales, qui seules étaient les propriétés dotées de sens. Hein, voilà, ces deux façons de formuler. Sont tout à fait justes. Hein. Disons que la caractéristique du connexionnisme, comme le nom l'indique, hein, c'est vraiment de mettre l'accent, c'est un peu basique, hein, mais c'est de mettre l'accent sur les connexions. Hein, sur les connexions. Donc le modèle, c'est le modèle du cerveau. Ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, que c'était du coup le cerveau qui servait de modèle à la conception même des machines entre guillemets intelligentes, si on reste sur notre interaction avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment le cerveau qui sert de base, de référence, et qui, comme vous l'avez dit Bastien, a été examiné de plus près, et c'est sur la base de cet examen plus précis en fait du fonctionnement du cerveau qu'on s'est rendu compte, alors que c'est une hypothèse sur le cerveau, hein, mais en tout cas à l'époque, à ce moment-là, on s'est rendu compte que ce qui était en jeu, c'était ce qu'on a aussi appelé les réseaux de neurones. C'est-à-dire, quand on parle de connexion ou d'interconnexion, comme vous l'avez dit, il faut avoir en tête que le modèle, la compréhension du cerveau qu'on a acquis à ce moment-là, est une compréhension qui nous a fait passer d'une compréhension localiste, où on avait d'abord, dans un premier temps, au début, en fait, dans les premiers temps des sciences cognitives et des neurosciences, on avait une hypothèse qui était plutôt localiste, localisante, c'est-à-dire qu'on définissait des aires du cerveau, on est sur un mode spatial, et donc on disait, par exemple, typiquement, voilà, qu'on a nommé l'aire de Broca, eh bien, c'est l'aire du langage. Donc ça se situe à un certain endroit dans le cerveau. Je vais pas vous faire une carte, parce qu'il faudrait que je reprenne un peu les bases, donc j'ai pas la carte en tête là, immédiatement sous les yeux, de toute façon. Mais donc il y aurait une aire du langage, il y aurait une aire des fonctions motrices, il y a une aire des fonctions plus émotionnelles, hein, donc là qu'on va loger dans l'amygdale par exemple, dans un cerveau qu'on nomme aussi le troisième cerveau, un cerveau plus limbique, hein, plus végétatif. Donc on a gardé ces catégories, on continue à raisonner dans ces catégories. Hein. Ça c'était la première manière qu'on a eu d'envisager le cerveau, en disant on va spatialiser, il y a des fonctions qui correspondent à des endroits du cerveau, en fait, tout simplement. Donc c'était une compréhension assez cartographique et statique, finalement, du cerveau. Et puis donc le connexionnisme, en fait, fait une sorte de changement de perspective, de mutation. Parce qu'en fait, il va nous dire, ok, ces aires du cerveau, c'est pas faux, mais c'est insuffisant. Ça ne permet pas de comprendre la complexité, en fait, de ce qui se passe dans le cerveau. Dans la mesure où on reste sur un plan où on va isoler des parties, et puis on va leur assigner une fonction et une signification. Or, en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque le cerveau produit une intelligence qui est une intelligence globale, et dont on a les effets, d'ailleurs, dans notre manière de fonctionner, hein, dans notre manière de nous comporter, dans notre capacité d'adaptation, par exemple, hein, tout simplement, à des situations nouvelles. Et donc, pour mieux comprendre justement cette complexité, eh bien, on a été analyser de plus près le cerveau et on s'est rendu compte que ce cerveau, eh bien, se déployait, justement, faisait émerger des processus. Donc, il y avait des processus qui émergeaient, que donc, du coup, en réalité, ce qui résultait, ce qui permettait de définir des connaissances et donc de dessiner quelque chose qui relève d'une forme d'intelligence, eh bien, ça relevait de ces processus. Et que donc, du coup, les différentes aires en tant que telles, les différentes propriétés donc, qui avaient été assignées à des significations, n'avaient de sens que si on les mettait en relation les unes avec les autres. Donc il n'y avait pas une aire de langage isolée de l'aire motrice, par exemple, ou une aire motrice qui serait isolée de l'aire émotionnelle. Et en fait, en réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que en fait, cette compréhension du cerveau qui s'est dessinée progressivement dans ces années-là, donc dans les années 80, à peu près, 80-90, eh bien, elle était aussi une prise de conscience, comment dire, elle prenait appui, en fait, sur notre manière de percevoir notre intelligence, hein, d'être de comprendre comment nous fonctionnons en tant qu'être humain, en l'occurrence, et de nous rendre compte qu'en fait, on ne fonctionne pas en découpant finalement des parties significatives dans notre... la connaissance n'est pas simplement l'addition d'un certain nombre d'éléments sensoriels, par exemple, de données venues du monde qu'on mettrait en relation. Hein. Donc, en fait, c'est aussi la prise de conscience d'une conception de la connaissance, d'une théorie de la connaissance qui va mettre de côté une théorie pourtant déjà disponible, hein, qu'on connaît dans l'histoire de la philosophie, qui est la théorie issue de l'empirisme historique, hein, c'est-à-dire une théorie qui a été élaborée et identifiée par exemple par des auteurs comme John Locke ou David Hume, qui a été reprise ensuite dans des fonctionnements plus psychologiques John Stuart Mill, pardon. Et qui en fait a une conception relativement élémentariste ou atomiste de la connaissance, une sensation étant suscitée par une donnée du monde, qui va une impression, hein, comme dit Hume par exemple, une impression qui va ensuite produire du sens. Mais en fait, il y a une sorte de conception très discrète de la connaissance, très séparatiste, qui va ensuite proposer finalement des associations. Hein, la connaissance va se développer sous la forme, on va associer différentes sensations, et ces différentes sensations eh bien, vont dégager quelque chose de plus, un schème par exemple, ou quelque chose de plus général. Donc cette conception de la connaissance, finalement, elle va être mise de côté. Alors, c'est pas celle-là, c'est pas ce modèle de la connaissance qui va être privilégié en termes de conception de la théorie de la connaissance en un sens philosophique, mais on va retenir une conception de la connaissance qui ne fait pas du tout, si vous voulez, l'addition des parties, qui considère que le tout, eh bien, il est irréductible aux différentes parties. Donc on n'a pas un modèle sommatif, hein, on n'a pas quelque chose qui serait finalement une association des différents éléments et qui donnerait lieu à une généralité. Ça, c'est le modèle empiriste. Mais on va avoir un modèle qui est plus, en réalité, un modèle qu'on pourrait dire dialectique. Donc peut-être qu'une référence à la philosophie de Hegel, ici, de ce point de vue-là, est intéressante à mobiliser. Un modèle qui fait appel à une synthèse, la synthèse étant elle-même irréductible aux différentes parties. Donc le modèle hegelien, il est tout à fait pertinent de ce point de vue-là, puisque chez Hegel, on a l'idée d'un tout qui dépasse en fait l'addition des parties, hein, un modèle d'intégration. Donc si on a en tête ces deux conceptions de la connaissance, donc je fais un peu une sorte de mise en perspective assez large, hein, historique, mais si on a en tête ces deux modèles de la connaissance, on comprend comment se situe finalement le connexionnisme sur le terrain des sciences cognitives. Le connexionnisme, il va prendre appui sur une conception synthétique en fait de la connaissance, hein, donc cette notion de synthèse en philosophie elle est classique, et donc synthétique mais dynamique, et donc il faut ajouter à la synthèse la dialectique pour vraiment avoir l'ensemble de la conception de la connaissance qui est en jeu ici, et du coup en fait on va avoir donc une conception qui considère que le sens apparaît et donc l'intelligence apparaît sur la base donc d'un réseau, hein, donc d'une synthèse, hein. Réseau, c'est le terme plus scientifique. Synthèse, c'est le terme plus philosophique. Mais en tout cas, donc, d'interconnexion, hein, donc de dimensions qui vont mettre en relation, finalement, les différents éléments dont on part, à savoir soit des données sensibles sur le terrain de la connaissance en philosophie, soit des éléments d'information, donc des données aussi d'une certaine façon, et qui donc sur cette base-là, eh bien, vont faire émerger une dimension qui a une complexité, qui a une forme de complexité qui finalement est irréductible aux données dont on est parti. Donc on a un changement de plan et effectivement seul le passage au global, c'est-à-dire le passage à une synthèse ou à ces réseaux d'interconnexion, fait sens. La dimension sémantique, en réalité, elle apparaît uniquement à ce moment-là. Donc c'est, en fait, c'est ça l'intérêt du connexionnisme, c'est de privilégier, pour le dire encore autrement, c'est de privilégier les relations entre les termes sur les termes. Et c'est de considérer que c'est les relations entre les termes qui font sens et qui font émerger de l'intelligence, c'est-à-dire une capacité justement à prendre acte de ce qui me du mode de relation, hein, des différents modes de relation, et de construire à partir de là une dynamique de sens. Et c'est en ce sens, comme vous le disiez très bien, Bastien, que ce modèle connexionniste, je l'ai mis en relation moi avec un modèle de la connaissance en philosophie, mais il est aussi pris en charge par Varela depuis un paradigme qui est un paradigme biologique. Hein, c'est-à-dire que on change de paradigme en fait de référence. On peut le mettre en relation avec un modèle philosophique de connaissance, le modèle synthétique dialectique, mais il est aussi tout à fait, et Varela le fait plus spontanément à partir d'un paradigme biologique qui est sa compétence de départ, hein, sa spécialité de départ. C'est un biologiste. Et donc toute sa théorie finalement antérieure que j'ai évoquée la dernière fois de l'autopoïèse, hein, sa première théorie des années 70-80 avec Maturana, c'est une théorie justement qui privilégie le couplage, hein, vous avez utilisé ce terme à un moment donné, Bastien, le couplage structurel entre le vivant et l'environnement. Donc dans cette notion de couplage, qui est aussi une notion très importante pour Varela dès son modèle de l'autopoïèse, cette notion de couplage, eh bien, elle décrit spécifiquement justement l'importance de la relation. S'il y a couplage, le couplage, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est plus qu'une corrélation, c'est plus qu'une simple mise en relation externe entre deux propriétés qui restent extérieures l'une à l'autre. Ça, ce serait une corrélation. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, sur votre feuille, une corrélation, ce serait de dire, ben voilà, le cerveau a un certain fonctionnement dans l'aire de Broca, et bien sur le plan du fonctionnement cognitif, ça donne le langage. Donc on ferait une corrélation. On mettrait en relation, mais ce serait une mise en relation faible finalement. On ferait juste apparaître des parallèles. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui reste très statique de ce point de vue-là. Alors qu'au contraire, quand on parle d'un couplage, eh bien, on dit quelque chose de beaucoup plus intégrant, hein, c'est-à-dire qu'on intériorise la relation et on fait ressortir l'unité, hein, et la dynamique qui émerge entre ces deux termes et qui produit quelque chose de plus complexe, justement. Donc en fait, le fonctionnement que décrit Varela, sur la base de cette notion de couplage, eh bien, on pourrait dire qu'elle est, il est transposé ensuite de façon, dans son évolution à lui, en tout cas, il va être transposé au niveau de la compréhension du cerveau aussi, à partir de ce modèle biologique, donc des machines, ce qu'il appelle lui-même des machines autopoïétiques, dans un essai antérieur qui s'appelle Autonomie et connaissance. Donc ça, c'est un premier livre qui est antérieur à l'inscription corporelle de l'esprit, Autonomie et connaissance, essai sur le vivant, je crois. Donc c'est un livre de Francisco Varela, également, où il évoque justement cette dimension. Donc il parle de machine autopoïétique, justement pour essayer de décrire un type de structure qui permettrait de réunir de façon transversale le modèle biologique et le modèle artificiel, d'une certaine façon, vous voyez. Donc voilà, on pourrait décrire les choses ainsi, et ça permet de comprendre en fait comment ensuite l'inaction se déploie, comme ça, la signature propre de Varela, sur la base en fait de cette conception connexionniste. C'est-à-dire qu'en réalité, l'approche connexionniste ne va pas être strictement critiquée par Varela comme l'approche connexionniste critique l'approche symbolique. Donc on n'est pas dans un mouvement de critique successive, mais on est plutôt dans un mouvement où, sur la base de la critique de l'approche symbolique par une approche connexionniste, eh bien sur cette base-là, on fait émerger une radicalisation en fait du connexionnisme qui va s'appeler l'inaction. Donc c'est, d'une certaine manière, on décrit une possibilité plus radicale, mais qui est déjà en germe, en réalité, dans le connexionnisme, à travers ce motif d'une émergence, d'une complexité sur la base de données qui en elles-mêmes donc ne sont pas significatives en tant que telles, mais qui le deviennent par leur mise en relation, par leur mise en réseau, d'une certaine façon. Voilà ce que je peux peut-être vous dire pour avancer, pour approfondir un tout petit peu cette conception du connexionnisme, qui effectivement est centrale, hein, et qui est complexe, hein. Donc je suis pas, c'est pas du tout étonnant, hein. c'est normal que vous ayez Bastien, que vous n'ayez pas pu aller tellement plus loin, mais ce que vous en avez dit était tout à fait juste, et vous avez bien insisté aussi sur la propriété du contexte comme étant une composante à part entière et intégrante finalement de la cognition pour Varela, ce en quoi ici il est vraiment en convergence avec Dreyfus, dont on a vu l'approche la semaine dernière et dont on a étudié à travers un extrait quelques éléments. Tous les deux partagent vraiment, enfin sont complètement en phase sur l'importance de comprendre la cognition depuis donc en donnant au contexte un sens interne à la cognition. Alors Sinan nous pose une question que je nomme pour l'enregistrement. Quelle est donc la différence entre le dualisme de la propriété et le connexionnisme à propos de l'irréductibilité? Alors, c'est une question assez complexe. Peut-être que vous pourriez préciser ce que vous nommez le dualisme de la propriété, pour que je sois bien sûr de comprendre. Peut-être en prenant la parole directement, si vous voulez ouvrir votre micro, Sinan, c'est possible. C'est peut-être plus facile que par écrit, comme vous voulez. Sinon, par écrit, si vous préférez. Dualisme de la propriété, je pense que ça demande à être précisé, pour que je puisse voir comment ce que vous entendez par là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si Sinan est connecté, je regarde. Oui, vous êtes connecté.
Ah oui, je suis ici.
Allez-y, alors, peut-être excusez-moi. C'est mieux à l'oral, je pense, si vous voulez.
Ouais. Le dualisme des propriétés, c'est irréductibilité des propriétés mentales à des propriétés physiques. Mais ils sont d'accord de le propriété mentale vient ça marche de propriété physique en fait.
D'accord.
Donc j'ai vu une connexion entre eux dualisme de la propriété et ça peut être bien de comprendre la différence en fait.
Il faudrait préciser encore un peu plus parce qu'en fait, en tout cas dans l'énoncé même du terme dualisme, le terme dualisme est un terme très fort et donc il a tendance à accentuer la distinction, voire l'opposition. Vous voyez, à mettre en avant quelque chose qui ne va pas pouvoir être unifié, ou en tout cas dont l'unité n'est pas pensée. Si dualisme de propriété, dans ce que vous indiquez, ça correspond à la distinction forte entre le physique et le mental, entre les données physiques et les états mentaux, mettons, dans ce cas, une théorie dualiste, c'est une théorie qui privilégie une distinction forte, voire une opposition, donc qui ne permet pas de penser l'unité. Vous voyez, en tout cas, qui n'a pas l'unité en perspective. Ou qui ne la présuppose pas non plus d'ailleurs, en réalité, ni en amont ni en aval. En tout cas, si on pense le concept de dualisme en son sens fort, en son sens standard. Donc à partir de là, ça me semble davantage s'opposer que se mettre en relation avec le connexionnisme, puisqu'en fait le connexionnisme, au contraire, c'est une approche qui fait fond sur une unité de base, qui considère que l'unité est préalable, et que c'est cette unité justement qui est le lieu possible des relations, ici dans les réseaux de neurones par exemple, hein, mais de manière plus large aussi, et qui, sur cette base-là, fait émerger une unité supérieure, donc une unité plus complexe, qui est le télos, si vous voulez, du processus d'émergence. J'ai du mal à voir comment les deux peuvent se mettre en relation, uniquement sur la base de voilà des façons de nommer la notion d'irréductibilité à mon sens, si elle est utilisée à propos de cette théorie du dualisme des propriétés, elle a absolument pas le même sens que le connexionnisme dans la mesure où pour une approche connexionniste, l'irréductibilité signifie principalement le fait qu'on ne puisse pas réduire justement ce qui va être acquis in fine par rapport à ce dont on part. C'est-à-dire ce sur quoi on va déboucher, donc la complexité qui va émerger, on ne peut pas la réduire aux éléments de départ, aux éléments initiaux. Elle la déborde, si vous voulez, il y a une position d'excès. Donc l'irréductibilité, dans une approche connexionniste, c'est une forme d'excès de l'intelligence dans ce à quoi elle permet de déboucher par rapport à ce dont on part. Alors que la notion d'irréductibilité dans la théorie dualiste, c'est plutôt le fait que les deux types de propriétés sont séparées, tout simplement. Elles sont opposées, on ne peut pas les reconduire l'une à l'autre, mais parce qu'on part on a un point de départ qui pose le deux, hein, qui pose l'opposition. Donc c'est à mon avis en un sens très différent, le sens de l'irréductibilité dans le connexionnisme est une irréductibilité dynamique qui fait émerger du sens et qui résonne à partir d'une complexité, d'un processus, alors que l'irréductibilité dans le cas d'une théorie dualiste, c'est plutôt le constat en fait d'une non-relation, comme dans le modèle des mathématiques géométriques des parallèles. Voilà, deux droites qui sont parallèles, c'est deux droites qui sont effectivement irréductibles l'une à l'autre, mais parce qu'en fait elles n'ont aucune relation. Elles ne peuvent pas se relier, vous voyez. Donc j'aurais tendance à dire que c'est quasiment c'est un homonyme pour désigner vraiment deux processus ou deux états totalement différents. Bon, après il faudrait vérifier plus précisément concernant la théorie dualiste, la théorie de l'esprit. Que vous mettez en avant. Mais je pense que c'est vraiment deux conceptions très différentes. Le terme est un peu trompeur de ce point de vue-là.
Oui, en effet, c'est ce que vous dites à propos de connexionnisme sur émergent, propriété mentale, sa marche de connexion neuronale. C'est à peu près le même idée dans le dualisme de la propriété. Ils disent c'est pas comme dualité cartésienne. Ils disent ok, il y a véritablement une connexion entre le propriété de cerveau avec propriété de mental et conscience vient de cerveau, mais c'est impossible pour nous de réduire la conscience à propriété physique.
À la propriété physique, d'accord. Oui, bah, en ce sens, c'est proche. Mais ce qui me gêne, c'est le terme dualisme en ce cas. Je le trouve très très inadapté à la compréhension qui est proposée. C'est le terme dualisme qui pose problème dans ce cas. Parce qu'on ne peut pas parler de dualisme si ensuite on fait émerger quelque chose qui relève d'un processus d'unification. Le terme dualisme est beaucoup trop fort. Et en plus de cela, si vous voulez, la distinction par rapport à Descartes, il faudrait vraiment la penser de manière beaucoup plus précise, parce qu'en fait, en quoi est-ce que c'est différent de Descartes? C'est une vraie question. C'est pas sûr du tout. Enfin, en tout cas, tel que c'est décrit là, c'est pas si différent que ça. Et le dualisme cartésien, bon, ok, il fait ressortir, in fine, dans la sixième méditation, l'unité de. Comment dire, la conjonction de l'âme et du corps, enfin, dans le constat de l'unité de l'être humain, hein, mais en même temps, il y a un peu un processus un peu artificiel dans la mesure où on relie deux substances que Descartes s'est attaché à distinguer irréductiblement justement l'une de l'autre. Donc en réalité, sa façon ensuite de trouver un élément qui va permettre de les relier est un peu artificielle. Enfin. Donc on n'est pas du tout dans le même type de modèle. Le modèle de Descartes n'est pas du tout un modèle dynamique et dialectique, synthétique, c'est un modèle très analytique. Donc je pense qu'il y a une prise de position à avoir clairement par rapport à, voilà, est-ce qu'on fait passer l'analyse et la distinction d'abord, avant, et qu'on conserve jusqu'au bout, ou bien est-ce qu'on fait passer l'unité d'abord? Enfin, et je pense que là, c'est des positions, c'est quand même des grandes questions métaphysiques qui sont en jeu à travers ces positions. Et, en tout cas, ce serait intéressant de clarifier ça. Je pense que c'est important de le clarifier. Sinon, on raisonne sur des choses qui sont pas assez. Enfin, les termes sont pas assez précis, je trouve. Enfin, mais en tout cas, c'est une question de fond. C'est une très bonne question au final. Ça demandera à être creusé davantage. Peut-être vous pourrez m'en dire plus par mail ensuite. On pourra continuer à discuter de cela. Alors, si ça vous convient, je vous propose qu'on fasse actuellement, là maintenant, une petite pause de 5 minutes. Et puis, merci encore Bastien pour votre présentation et pour les retours des questions ou des propositions de discussion de Loïc et de Sinan. C'est tout à fait intéressant et judicieux. Donc on fait une petite pause jusqu'à 11h50, 5 minutes, et puis ensuite je prends la parole sur la phénoménologie pratique. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petite pause pour tout le monde.